continuer notre service, nous sommes invités à ouvrir la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le livre de Jean. Jean au chapitre 14, et nous lirons les versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et là, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen.
Bonjour à tous, et bonne journée de sabbat. Je crois que vous appréciez les moments de sabbat, cette journée si particulière, pour bien des raisons, mais permettez-moi ce matin d'en proposer une particulière. Ce qui m'a toujours plu à l'occasion de nos sabbats, c'est essentiellement la dimension fraternelle de nos rencontres. Je crois qu'il y a là un caractère particulier donné à cette journée et qui lui donne cette saveur si particulière. L'échange qui existe aujourd'hui entre nous. Si nous essayons de prendre un exemple, nous arrivons, nous garons la voiture, et puis nous commençons à saluer ceux qui sont affairés à la même tâche que nous, ce qui dénote déjà de ces habitudes de la semaine au cours desquelles nous n'allons pas forcément saluer ceux et celles qui sont autour de nous, notamment lorsque nous partageons avec cela même les transports en commun. Et puis nous allons développer cette fraternité au-delà des salutations par l'inquiétude, je dirais. Et la prière de Camille allait d'ailleurs dans ce sens-là. Nous allons nous inquiéter des états de santé, des situations des uns des autres, avant même que nous soyons probablement entrés dans ce lieu. Et puis lorsque nous sommes dans ce lieu, nous allons écouter, nous allons regarder, nous allons nous édifier. Mais à travers tout cela, qu'allons-nous faire finalement si ce n'est encore une fois renforcer ce lien de fraternité qui est le nôtre? Il y aura d'ailleurs dans l'organisation de la vie ecclésiale, après la matinée de culte, des temps de fraternité prononcés, je fais allusion au repas. Et lorsque nous nous quitterons sur le coup des 5 ou 6 heures de l'après-midi, lorsque viendra le temps de clôturer le sabbat, nous serons gonflés de cette fraternité. C'est là un point de la plus haute importance en des temps troublés, en des temps d'individualisme. Ce pour une première raison. Nous sommes des êtres essentiellement relationnels, qui ne voulons faire le sacrifice de relations multiples et de qualité. Et nos sabbats nous proposent, à travers tout ce que nous avons dit, cette ou ces possibilités. Ces relations sont nécessaires parce que nous sommes ainsi constitués, mais parce qu'elles répondent aussi à plusieurs rôles sociaux, psychologiques et bien d'autres encore. Je m'arrêterai maintenant sur le mécanisme qui, notamment le samedi, nous conduit à cette fraternité nécessaire. Et je m'arrêterai pour développer ce mécanisme sur ce texte que nous connaissons bien et que nous avons lu, à savoir celui de Jean. Je ne le reprendrai pas car il a déjà été lu. Mais c'est un texte important. Important tout d'abord dans le contexte dans lequel il se situe. Les disciples viennent d'apprendre que le Christ allait être crucifié et ils ne s'attendaient peut-être pas à cette annonce. Comme vous le savez, ils imaginaient un Christ victorieux, un Christ conquérant, un Christ président. Sarko, Hollande, Hollande-Sarko. Non, je ne crois pas. Le Christ que les disciples attendaient, s'il avait dû porter le nom d'un grand leader, c'eût été celui de David. Et puis, patatras, voilà que le Christ dit qu'il finira sur une croix. On peut imaginer tout le désarroi, on peut imaginer l'incompréhension, on peut imaginer les doutes qui, à ce moment-là, gagnent l'esprit de ses disciples tourmentés. Et Jésus, conscient, parce que pleinement inspiré de l'Esprit de Dieu, de tout cela, veut les rassurer, les réconforter, et peut-être même, à travers ce réconfort, leur donner la possibilité, s'il est, de passer mieux l'épreuve qui arrive. Il leur fait cette superbe promesse. Un texte intéressant parce qu'il nous donne la possibilité d'entrevoir ce mécanisme qui conduit à la fraternité. La parole. Vous remarquerez que dans le développement de la spiritualité, tout repose sur la parole, sur des mots de Dieu d'amour, de ses serviteurs aussi, qui ne reprennent finalement que les mots de Dieu et les délivrent à tous ceux qui veulent bien les entendre. Ces mots sont nécessaires, indispensables. Ils ne sont pas que des mots. Ils vont, au moment même de leur transport et de leur accueil dans l'oreille et l'esprit de celui qui les reçoit, provoquer une réaction, peut-être même une transformation dans l'aboutissement subtil et cette fraternité que nous conjuguerons aussi avec l'amour. Preuve en est, vous remarquerez que lorsque Dieu va créer notre terre, notre environnement, la création, il va dire. Nous établissons donc une relation entre le dire, les mots de Dieu, et l'avènement d'un environnement, par exemple. Les mots de Dieu sont importants parce qu'ils créent toujours quelque chose d'utile et de fraternel, nous l'avons dit. Mais vous remarquerez que cette création obéit aussi à des conditions particulières et elles-mêmes nécessaires. Et dans le texte qui nous intéresse, nous retrouvons ce mécanisme du Verbe et les conditions qui l'accompagnent, et nous nous arrêterons maintenant sur ces conditions. Les mots de Dieu sont ce qu'ils sont, créateurs, générateurs de vie, d'espoir, de fraternité, d'amour, parce qu'ils sont tout d'abord orientés. Et ici, nous avons un objectif bien précis, le retour de Jésus-Christ. Vous remarquerez que nous avons besoin, tous, petits ou grands, quel que soit notre rang, notre condition sociale, d'un objectif bien déterminé, bien précis, si nous voulons avancer dans la vie. Et je crois qu'ici, à travers ces mots, c'est finalement ce que Jésus propose. Un objectif qui transcende toute réalité, toute expérience que l'homme puisse être amené à vivre. On dit chez les Arabes qu'aucun vent n'est le bon si le capitaine ne sait où il va. Eh bien, le Christ sait que nous sommes souvent des capitaines sans boussole. Il sait que ses disciples, à travers l'annonce qu'il vient de leur faire, vont être particulièrement ces capitaines sans boussole, et il leur donne un objectif. Et voilà comment les mots de Dieu, grâce à cet objectif, vont entrer dans ce mécanisme constructeur positif dont l'avatar final sera l'avènement de la fraternité, de l'amour dont la Bible nous invite à la pratique. Un poète anonyme dira « Il nous faut un horizon pour rester debout, une étoile pour guider nos pas. » Cet horizon, cette étoile, c'est l'espérance du retour du Christ. Une espérance stabilisante, premièrement. Là aussi, nous pouvons dégager tout l'intérêt de ces mots et de cette espérance, de cet objectif qui nous est ici laissé par le Christ. Lorsqu'un objectif est fixé, lorsque nous sommes invités à mobiliser toutes nos énergies, nos facultés pour l'atteindre, nous trouvons en cela le moyen d'une stabilité. Stabilité ne rime pas ici avec absence de difficulté, loin de là. Mais stabilité, car c'est peut-être d'ailleurs au-delà des plus grandes difficultés que cette qualité se laissera trouver pour permettre la traversée de ces difficultés. Stabilité aussi, et j'en reviens à la notion de mot, parce que lorsque l'objectif est ainsi fixé, et je crois que c'est toute la logique de ce texte que nous abordons maintenant, nous nous accrochons aux mots qui ont fixé l'objectif. Et pour ne pas être trop compliqué ce matin, j'aimerais vous laisser un exemple. Vous avez dans le domaine du sport bien des domaines, bien des disciplines qui illustrent ce que j'essaie de vous expliquer parfaitement et simplement. Prenons par exemple les sports automobiles. J'ai eu la chance, il y a quelques semaines de cela, de pouvoir faire un stage de pilotage de voitures de course. Rassurez-vous, c'est un cadeau. Je n'ai pas les moyens de payer ce genre de stage. Mais c'est une expérience extraordinaire, déjà parce que j'aime beaucoup la vitesse, et beaucoup trop d'ailleurs. Mon permis à points s'en souvient. Quoique. Lorsque je suis arrivé à Trappes, où se situait le circuit, nous avons eu droit à une formation, à démo, pendant 20, 25 minutes, 30 même, je crois, où on nous expliquait qu'il fallait faire exactement le contraire de ce qu'on nous apprend dans les auto-écoles. Mais ce n'est pas tout. Après avoir mis, je ne sais plus quel est le nom d'ailleurs, cette espèce de cagoule, porte un nom spécifique, sur laquelle on va mettre le casque, une fois que l'on sent quand même, puisque c'était pour moi en tout cas la première fois, le stress vous envahir, parce qu'on voit déjà les bolides défiler et on voit qu'ils vont très vite. Vous entrez dans le véhicule. Ferrari 457, rouge. Et vous êtes au volant. Et qui arrive ? Le copilote. Et que va faire le copilote ? Eh bien, il va vous dire exactement ce que vous devez faire. Vous dire d'accélérer quand il faut accélérer, de freiner quand il faut freiner. D'ailleurs, à un moment donné, je ne l'ai pas bien écouté, nous avons tracé tout droit. Mais peu importe, il a su rectifier le tir, ce qui a quand même freiné mes ardeurs. Et nous avons ainsi continué sur la bonne voie, puisque dès cet incident advenu, vous comprendrez que j'étais parfaitement suspendu aux paroles du copilote. Et j'en reviens aux paroles. Qu'est-ce qui m'a permis finalement d'atteindre le but ? Ce sont les paroles de ce copilote, à tel point qu'à un moment donné, même si je regardais la route devant moi, ce sont surtout ce que me disait ce coéquipier qui me permettait d'avancer. Vous retrouvez cette logique avec les rallyes, par exemple, j'en arrêterai maintenant avec le domaine de l'automobile. Les Sébastien Loeb et compagnie sont plus suspendus aux paroles de leurs copilotes qu'à leurs facultés intrinsèques, même si les deux sont étroitement liés. Un objectif était fixé, celui de faire les quelques tours de la façon la plus rapide et donc adaptée qu'il soit. Et pour y parvenir, il a fallu que je m'accroche aux paroles de ce copilote. Et nous sommes avec Jean, verset 1-4 du chapitre 14, dans cette logique. Un objectif est fixé, le retour de Jésus-Christ. Et pour y parvenir, le Christ nous donne sa parole. Une parole crédible, parce que c'est le Christ qui la donne. Et le Christ, ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui s'est fait homme. C'est le Créateur, le législateur, le rédempteur, excusez du peu. D'autre part, ce Christ qui donne cette parole, qui fait cette promesse, c'est un homme qui, lorsqu'il était avec ses disciples, et qu'il est d'ailleurs encore au moment où il dit cela, a prouvé que ce qu'il disait, il le faisait. Et lorsqu'il annonçait quelque chose, cette réalisation était au rendez-vous. Enfin, et peut-être le plus important, cette parole que les disciples accueillent avec un certain désarroi, une certaine incompréhension, nous l'avons déjà dit, puisque c'est le Christ qui la leur donne, celui qu'ils aiment, celui avec qui ils sont reliés, celui avec qui ils partagent quelque chose de particulier, une amitié tout du moins. Ils entendent et logent au plus profond de leur esprit tourmenté cet objectif parce que c'est celui-là qui le dit. Vous savez, lorsque j'ai fini mon tour de circuit, il y avait un sentiment assez profond qui m'animait, je vous assure. La joie. J'étais content, tout simplement, comme un enfant à qui on venait de donner un jouet. Je pense que l'objectif que le Christ nous donne, qui est le nôtre aujourd'hui, nous sommes des adventistes du septième jour, des adventistes qui attendent le retour de Jésus-Christ. Nous sommes ceux à qui le Christ dit aujourd'hui, comme il l'a dit à ses disciples, « Je suis là-haut, je prépare beaucoup de choses pour vous et pas vous d'ailleurs, uniquement, d'autres aussi. » Et nous avons cru, parce que comme les disciples de ce temps, pour nous, Jésus est aussi tout cela. Et finalement, cette fraternité que nous ressentons particulièrement le jour du sabbat, c'est aussi le fruit de cette espérance qui a gagné nos esprits et les gagne encore. Cette espérance mérite que nous la cultivions. Elle n'est pas acquise. Rien n'est jamais gagné en ce bas monde. Il faut l'entretenir, il faut la cultiver. Et pour cela, nous en revenons aux mots, aux verbes, aux paroles de Jésus, dont nous avons aujourd'hui le contenu, le témoignage dans nos Bibles. Voilà des messages. Voilà un objectif que nous pouvons, à travers toutes ces pages, retrouver, cultiver, développer. Il nous revient, chers amis, chers frères et sœurs, de le faire, afin de nourrir notre fraternité le samedi, mais pas que, et d'avancer chaque jour un peu plus en vue de cet objectif. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Marseille. J'imagine que oui. Lorsque vous entrez à Marseille par, j'hésite, l'autoroute A9 ou A7 A7. Lorsque vous êtes déjà bien entré dans Marseille, sur la gauche, vous voyez, en tout cas on voyait à l'époque, que Jésus revient. Je crois qu'il n'y a pas un Marseillais qui ne sait pas que Jésus doit revenir un jour. Et je me suis souvent posé la question de la foi, de la mentalité de cet écrivain furtif, mais efficace. Celui-là croyait, à tel point qu'il est allé marquer sur les murs marseillais, en quelques mots, mais des mots justes, son espérance. Il cultivait probablement cet espoir. Il était lui aussi un capitaine orienté. À nous, il revient à chacun de nous, d'être ou de devenir ses capitaines. On pourrait aussi dire de cet objectif que le Christ nous donne et de ces mots qui permettent de l'accepter et d'adhérer au projet que cet objectif sous-tend, qu'il nous équilibre, qu'il nous stabilise, et grâce à cela, et bien d'autres encore, nous amènent à cette fraternité d'aujourd'hui, mais aussi qu'il nous valorise. Regardons ce à quoi nous sommes appelés. Nous avons eu cette semaine un débat de candidats à la présidence de la République française. Et j'ai quand même été assez interpellé par la sobriété du décor et la sobriété aussi des vêtements, mais une sobriété que je qualifierais d'efficace parce qu'elle conduisait à la notion de respect. En voyant tout ce décor, en regardant ces hommes-là, peu importe lequel d'ailleurs, les deux je le crois, on était amené à un certain respect. On voyait à travers tous ces artifices peut-être toute la hauteur de ce poste que les deux convoitent. Il y a de la valeur, il y a de la hauteur, il y a de la dignité dans le statut de président de la République française. D'ailleurs, si nous allions aujourd'hui, ou plus exactement à partir de demain soir, visiter le prochain président de la République française, nous ferions attention à ce que nous porterions, nous essaierions de nous présenter de la façon la plus adaptée. Pourquoi ? Parce que nous nous sentirions valorisés par cette possibilité, par cette rencontre. Et je crois que c'est ce que le Christ fait ici aussi. Il nous donne un rendez-vous. Ces mots nous invitent à converger vers un rendez-vous. Avec qui ? Je disais tout à l'heure de Jésus-Christ qu'il était Dieu, qu'il était le Créateur, le Législateur, le Rédempteur, trois des grandes fonctions de la divinité. Voilà, je le crois, des éléments qui nous invitent à mesurer la dignité qui nous est par cette simple invitation conférée. Et cette dignité n'est pas là pour nous inviter à sombrer dans une gloriole personnelle, bien au contraire. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir. Il s'agit simplement de mettre en branle certains mécanismes psychologiques qui sont indispensables pour, encore une fois, la stabilité de l'individu, son épanouissement, c'est-à-dire une bonne image de soi. On ne peut être bien avec soi, et donc bien avec les autres, bien avec Dieu aussi, que si l'on ne développe de soi une image positive, que si l'on est bien dans ses baskets, permettez-moi l'expression. Et en nous disant ici, j'en reviens à Jésus, qu'un jour il nous fixe ce rendez-vous, lorsque nous mesurons avec qui ce rendez-vous est pris, puisque nous sommes ainsi élevés, je crois que nous trouvons le moyen d'une certaine valorisation, bonne valorisation, et la possibilité d'une estime de soi, d'un équilibre, d'une auto-réjouissance, qui, lorsqu'elle est de mise dans le groupe et dans l'Église, converge, encore une fois, vers l'épanouissement et le développement de notre fraternité. Je me souviens de ce témoignage bouleversant que je crois d'ailleurs vous avoir déjà donné, mais qui mérite aujourd'hui d'être répété. Lorsque j'étais en troisième année d'études de théologie à Collonges, il y a là une jeune femme qui devait avoir entre 25 et 30 ans, qui venait de temps en temps dormir dans l'internat des jeunes filles sur le campus. Cette jeune femme était atteinte du sida et elle était en phase terminale. Nous pouvions voir sur son visage marqué l'avancée de la maladie. Je me souviens de cette belle et grande brune d'origine maghrébine. Dans son parcours, elle avait eu la chance de rencontrer le Christ et de s'être donnée à Christ. Du moins, elle était sur le point de s'engager par voie baptismale avec le Christ. Je me souviens de cette personne qui nous disait, lorsque à la cafétéria nous mangions avec elle, « Qu'est-ce qu'on est bien ici ?» On est bien à la fois parce que le décor, parce que l'ambiance, parce que le lieu, mais on est bien parce que quelque chose transpire de cet endroit. Une paix qui n'appartient pas qu'à cet endroit, qui est le fruit d'une personne qui habite l'endroit, et cette personne c'est Christ. Ce Christ qui nous parle aujourd'hui dans ce texte. Voilà que cette personne demande un jour à témoigner le vendredi soir à l'occasion du début de sabbat. Et elle livre un témoignage extraordinaire alors que nous étions à une ou deux semaines de son décès. Elle vient en chair avec le sourire aux lèvres, ce à quoi nous ne nous attendions pas forcément. Et surtout, elle dira, je sais où je vais à la mort. Mais je sais que je suis une princesse. Je suis une princesse parce que j'ai accepté, ou vais l'accepter, Jésus-Christ. Je suis fille de Dieu. Fille de Dieu. Elle trouvait en cela la possibilité de dépasser et la souffrance liée à la maladie et même la mort qui l'attendait. Elle baignait du coup dans la fraternité. Elle savait véritablement ce que c'était que l'amour du Christ. Il y a dans ce texte de cette logique. À travers les mots de Jésus-Christ, on sent que nous sommes élevés en dignité. Et nous sommes ainsi mieux outillés pour dépasser les difficultés. Et dès lors que nous sommes mieux outillés pour dépasser les difficultés, on comprend que la joie puisse être conservée. Que l'espérance dont nous avons parlé puisse être conservée. Et que notre vie relationnelle puissent être améliorés, embellis. La fraternité est dès lors de mise. Et enfin, je terminerai par ce qui m'apparaît être aussi important dans ce mécanisme verbal que le Christ nous propose ici, c'est le regard sur l'autre. Le Christ est en train de nous dire à travers ces mots, ne tombez pas dans le piège de l'individualisme, de l'égocentrisme, d'une vision tournée
uniquement vers vous. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Plusieurs demeures nous invitent à penser qu'il y a des demeures non seulement pour les adventistes de ce lieu, et d'ailleurs, mais finalement des demeures pour le monde. Une place pour chacun des habitants de ce monde. Ce qui nous invite, nous qui avons peut-être avant beaucoup compris certaines choses, accepté certaines choses, à délivrer ce message pour que nous soyons le plus nombreux possible à occuper ces places que le Christ nous prépare. Je pense à ce texte de Pierre. Le Christ ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience afin que le plus grand nombre soit sauvé. Voilà que ce texte, non seulement nous invite à un objectif, voilà que grâce à cet objectif, il nous permet de nous accrocher aux paroles de Jésus-Christ et à obtenir de cela toutes les bénédictions inhérentes à cet accrochage. Et ce texte surtout nous invite à devenir serviteurs des autres, à devenir missionnaires pour les autres, à accomplir la parole que Jésus nous a laissée. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Quel temps consacrons-nous à l'accomplissement de cette parole? Quelle collaboration mettons-nous en place avec Jésus-Christ pour l'aider à mieux préparer ses places en haut dans le ciel, pour faire en sorte que quand il reviendra, il y ait un minimum de places vides dans les cieux et ensuite sur terre. Il ne s'agit pas de nous culpabiliser et par la culpabilité de nous amener à l'action, ce serait vain, inutile. Il s'agit simplement de voir encore une fois à quel objectif, à quelle mission extraordinaire nous sommes conviés. Travailler avec Jésus pour le salut de ceux qu'il aime tant et dont nous sommes peut-être chronologiquement dans les premiers rangs. Voilà aussi un motif de joie. Il y a dans l'élan missionnaire, il y a dans l'accomplissement de la mission chrétienne de la joie. D'ailleurs, remarquez comment nous appelons les carnets de chants qui ont été proposés pour des missionnaires en herbe, certes, jeunesse en mission. Jeunesse en mission rime avec joie, rime avec allant, rime avec entrain, rime avec vie. Le Christ nous propose cet accomplissement missionnaire, non pas pour nous contraindre, nous obliger ou par devoir, mais parce qu'il sait que dès lors que nous allons dans ce sens nous avancer, nous allons être accompagnés d'un certain nombre de sentiments, de vertus positives, nécessaires à la construction de notre fraternité. Que le Christ puisse ce matin nous accompagner dans le renforcement de l'espérance chrétienne, l'espérance qui est la nôtre, le revoir bientôt. Que nous puissions pour cela nous accrocher à ces mots et vivre tous ces mécanismes, toutes ces bénédictions. C'est là ma prière pour chacun de nous. Amen. Amen.